Je rappelle qu'Olivier est donc professeur en classe préparatoire et aussi fondateur d'une association enseignant pour l'enfance qui est née précisément dans cette conscience qu'il fallait donner un contenu à cet enseignement moral qui se dessinait.
Merci, merci beaucoup, bonjour à tous. Donc moi je suis venu aujourd'hui vous parler de l'égalité et je commencerai très rapidement mon propos en vous disant que l'égalité est devenue chez nous, dans notre institution qu'est l'éducation nationale, une sorte d'obsession, un mot qui pourrait guérir de tous les maux. Et j'en veux pour preuve le discours qu'a prononcé notre Premier ministre le 22 janvier 2015, suite aux événements que vous connaissez et que vous savez, et qui présentait le projet de Madame Najat Vallaud-Belkacem, grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, de la manière suivante: l'école doit fabriquer de l'égalité pour tous. Il est donc ici clair que l'égalité est bien plus qu'un mot, c'est un objet que l'école doit fabriquer. Et il reprend là une tradition qui s'est instituée depuis quelque temps déjà, c'est l'école qui est dépositaire de la valeur de l'égalité. La preuve, lorsque Najat Vallaud-Belkacem prend en charge sa mission, elle se donne pour objectif de transmettre une culture de l'égalité. L'égalité est donc une chose, un objet que l'on construit, mais également un savoir, puisqu'il s'agit d'en transmettre la culture. Or, l'histoire du mot même nous le dit, l'égalité n'est pas un objet, n'est pas un savoir, c'est d'abord une perception. Ce n'est pas une culture, c'est une modalité du réel. En effet, vous le savez peut-être, égalité vient du terme latin aequalitas, qui vient, pardon, de l'adjectif aequalis. Et qu'est-ce qu'un aequalis en latin? C'est quelqu'un qui est égal à un autre par l'âge. Il est donc question ici de conception des choses plutôt que de choses elles-mêmes. Mieux encore, vous remarquez que dans ce rapprochement, l'égalité latine procède par rapprochement de deux entités distinctes, deux individus, par le fait d'une seule détermination commune. Or, et c'est la deuxième contradiction que je trouve dans ce projet de transmettre de l'égalité, l'école est par excellence le lieu d'une certaine manière de l'inégalité, ou de la différenciation pour être plus précis. Inégalité des personnes à l'école. Dans une classe, un adulte s'adresse à des enfants ou à des plus grands. Cet adulte sait et les enfants sont venus pour apprendre et pour savoir. Inégalité des propositions et des traitements. Dans la classe, à la fin de l'année, certains passeront dans la classe supérieure, d'autres resteront. Tout au cours de l'année, pardon, les enfants sont notés. Certains même exigent leur classement. Ils voudraient savoir où ils sont. L'école est donc l'espace de la différenciation, l'espace de la distinction, comme le voulait un certain Bourdieu, mais peut-être pas la distinction que Bourdieu pensait. L'école n'est pas que le lieu d'une distinction sociale, peut-être une autre distinction dont je vais parler dans mon propos. La question donc que je vais essayer de traiter devant vous, qui est donc la question saugrenue, en tout cas nouvelle, de l'enseignement de l'égalité, et la question de la nature de cette égalité, la question de ses moyens et la question de sa finalité. De quelle égalité pouvons-nous parler quand nous parlons d'égalité scolaire? Est-ce un principe, un fonctionnement, un idéal, un savoir? Cette égalité est-elle praticable dans cet espace de la différence qu'est l'école? Et au fond donc, à quelle égalité sommes-nous, nous autres professeurs, en charge pour notre éducation et pour notre enseignement? De manière très didactique, pardonnez-moi, j'ai organisé mon propos en quatre points que je vais énumérer rapidement. Je commencerai par une rapide histoire de l'égalité dans la culture des idées. Deuxième moment, j'insisterai sur cette école comme lieu de la distinction et donc de l'inégalité. Troisième moment, je parlerai très précisément d'un projet déjà en œuvre, très précis, de l'éducation nationale, qui sont les fameux outils pour l'égalité filles-garçons à l'école, qui sont, vous le savez peut-être, le succès d'année des fameux ABCD de l'égalité. Et dans un dernier temps, je parlerai de l'égalité que moi, personnellement, enseignant, je me promets d'offrir à mes élèves. Rapide histoire donc de l'égalité. Si je trace cette histoire de l'Antiquité à nos jours, je me rends compte que l'égalité a connu une évolution qui, par son histoire, nous a amené d'un principe politique à une conception anthropologique, et que nous sommes passés d'un principe d'égalité de droit à un principe de parité et de ressemblance des hommes et des personnes. Dans cette histoire, très rapidement, je dégage quatre phases. Une phase antique. L'égalité, au sens grec du terme, est apparue dans la cité grecque au VIe siècle, lorsque, en raison de désordres sociaux et de désordres économiques, Clisthène a posé le principe de l'isonomia, c'est-à-dire l'isonomie, c'est-à-dire la même norme pour tous, la même loi pour tous. Mais dans quel espace ? Dans l'espace politique seulement. Quelle que soit la fortune, dit Clisthène, quelle que soit la famille, dit Clisthène, le citoyen grec a le même suffrage, le même poids dans la cité que son voisin. Vous voyez ici que l'égalité est restreinte à la simple détermination politique. Égalité à l'âge des Lumières, deuxième phase. L'égalité va partir du côté politique pour migrer du côté juridique. Et j'évoque ici la fameuse Déclaration des droits de l'homme. Lisons-la cette déclaration. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il s'agit bien ici d'une égalité purement juridique. Mieux encore, ce qu'on ne lit pas ou pas assez, c'est la suite. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Vous voyez là que l'égalité juridique n'interdit pas l'inégalité ou la distinction sociale. Mieux encore, cette distinction sociale est présentée comme utile pour la communauté. Le troisième moment serait le moment marxiste de l'égalité. Critiquant cette égalité juridique et politique dont je viens de vous parler, Marx évoque de manière péjorative les droits de l'homme de la manière suivante. Les droits de l'homme, dit-il, sont les droits de la société civile et bourgeoise. Ce que promet le marxisme et le communisme, c'est une égalité économique. Attention, cette égalité n'est pas une stricte équivalence. Marx va poser un principe, un fonctionnement, qui est une égalité dans la redistribution des biens en fonction des besoins de chacun. C'est le fameux « de chacun selon ses possibilités, à chacun selon ses besoins ». Nous sommes là dans un principe d'équité, et non pas de parité, qui tient compte de la différence des personnes, des appétits singuliers et des aspirations personnelles. Arrive maintenant l'égalité de nos jours, telle que nous la concevons ou telle qu'on voudrait nous la faire concevoir. Cette égalité est une égalité qui n'est plus économique, qui n'est plus seulement juridique ou politique, c'est une égalité anthropologique. Et elle se conçoit comme une stricte parité, ou si vous préférez, comme une stricte similarité. Ce principe donc pose l'équivalence des personnes dans l'indifférenciation des identités et des individus. J'en veux pour preuve un document que vous connaissez peut-être, qui a été rédigé par les responsables d'un parti politique, le Parti Socialiste pour le nommer, qui s'appelle « Convention égalité réelle ». Texte donc rédigé en novembre 2010 et qui par son titre même dit tout. L'égalité est réelle, la réalité sera égale. Parmi toutes les propositions qui sont faites, je vous en propose une que je lis telle que je la vois sur ma page. La mobilité dans la hiérarchie sociale sera d'autant plus facilitée que les barreaux de l'échelle sociale seront proches les uns des autres. Vous voyez bien que dans cette conception, nous arrivons à un nivellement des statuts, une indistinction des rangs des fonctions, une proximité des individus qui associe donc en une même phrase égalité, équité, parité. Pour conclure ce rapide petit parcours effectué à travers cette histoire de l'égalité, je dirais donc que nous assistons à une extension du concept, à une généralisation du trait, qui va permettre l'équivalence. Nous sommes passés de l'égalité à l'égalitarisme. Lequel égalitarisme se définit comme suit. C'est un mot qui apparaît, je l'ai appris à cette occasion-là, au XIXe siècle. Égalitaire, posture qui vise à l'égalité absolue en matière politique et sociale. Et donc c'est, me semble-t-il, cet égalitarisme-là qui voudrait venir à l'école. Or, me semble-t-il, l'école est par définition le lieu de la distinction. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une raison absolument fondamentale et une raison plus structurelle et historique qui tient à l'école telle que notre père fondateur Jules Ferry l'a voulu. Raison fondamentale, ontologique même. Le but de l'école, et je pense que nous pouvons tous en convenir, le but de l'école est de transmettre une culture. Or, qu'est-ce que la culture ? La culture, qu'elle soit mathématique, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit géographique, qu'elle soit historique, c'est ce qui me permet de distinguer les éléments de la nature. La culture, définition très sommaire, très provisoire, est cette création qui me permet de rendre compte de la création. C'est ce monde fictionnel qui me permet d'envisager le monde. Or, s'il y a création, création fictive par le langage de l'artiste, création par le langage du mathématicien, il y a d'une certaine manière séparation entre la chose créée et le créateur. Et s'il y a séparation, il y a ordre. Et s'il y a ordre, il y a d'une certaine manière hiérarchie. Et ce qui montre magnifiquement cela, c'est précisément les récits fondateurs de toutes les cultures, qui rapportent des histoires de création, la Genèse dans la Bible, mais aussi d'autres récits de fondation. Les récits fondateurs, qui sont donc des récits de création, nous montrent que créer, c'est séparer, et en séparant, c'est ordonner. J'ai pris comme exemple un récit qui m'est cher et que vous connaissez peut-être, qui est le récit de la Théogonie d'Hésiode. Hésiode est donc un poète grec qui, au début de son propos, va rapporter la création du monde. « Avant tout, nous dit le poète, fut l'abîme, puis terre au large flanc, et amour. D'abîme naquirent Erebe et la noire nuit. » Alors il est magnifique ce récit, parce qu'il superpose, me semble-t-il, trois ordres. Un ordre chronologique, il y a un avant, un puis, un après. Un ordre spatial, spatial de séparation, de subdivision. Et un ordre, pour finir, ontologique, ce qui est premier est plus important que ce qui est second et qui viendra après. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la lecture de ce texte, à l'audition de ce texte, par le fait même de sa versification, par le fait même de sa disposition sur la ligne, nous entrons dans cette logique de la distinction. Nous entrons dans cette logique d'un premier, d'un second, d'un troisième. Et ce qui est magnifique dans la culture, c'est que non seulement elle nous initie à distinguer les choses de la nature, mais elle nous fait faire, dans sa transmission même, des opérations de distinction. Ainsi, moi qui suis professeur de français, je ne cesse d'enseigner à mes très chers élèves que le pluriel n'est pas le singulier, que le féminin n'est pas le masculin, et que passant par ces distinctions qui sont des distinctions conceptuelles, ils entreront dans des distinctions qui sont des distinctions d'ordre naturel. Autre raison, et structurelle celle-là, et historique celle-là, je suis en mesure de dire et de vous dire que l'école de Ferry, l'école donc du père fondateur qu'est Jules Ferry, est un lieu où il est demandé à chacun, où il est proposé à chacun, de comprendre de manière égale les différences de notre monde. Pour préparer ce propos, je suis tombé sur un très beau discours prononcé par Jules Ferry en avril 1810. Ce discours s'intitule « Le discours sur l'égalité d'éducation ». L'égalité d'éducation. Le titre promet ici une équité dans la réception et dans le don des savoirs, mais non pas une égalité des personnes, mais non pas une égalité des élèves, mais non pas une égalité des vocations. Et cela, Jules Ferry lui-même le dit. Je le lis ici de manière un petit peu continue et je commenterai après. « Je ne veux pas prêcher, dit-il. » Je ne sais quel nivellement absolu des conditions sociales. Pas de prêche, pas de prédication sur une égalité économique. Mieux encore, il y a toujours sans doute des hommes qui commandent, d'autres hommes qui obéissent. Mais le commandement et l'obéissance sont alternatifs. Et c'est à chacun à son tour de commander et d'obéir. Alors elle est extraordinaire cette phrase parce qu'elle nous montre que, politiquement, si l'école m'apprend la distinction, politiquement, l'école va m'apprendre à jouer un rôle. Par moments, j'écoute. Par moment, je parle. Par moment, je décide. Par moment, j'exécute. Une école de l'égalitarisme serait une école où tout se vaudrait, où je n'aurais rien à apprendre de mon professeur, où je n'aurais rien à exécuter de mon responsable politique, et où je n'aurais finalement aucune responsabilité moi-même à exécuter et à mettre en œuvre. L'école, donc, d'une certaine manière, est l'expérience profonde et intime de l'altérité. Celui qui ne sait pas découvre ce qu'il doit savoir, et de la médiation. Et cela nous est rendu par le fait même du savoir, par le fait même de la culture, l'histoire, la philosophie, les mathématiques, les langues, que sais-je. Et cette connaissance de l'autre, cette découverte de l'autre, c'est Jules Ferry qui nous le dit de manière prophétique et terriblement actuelle, est condition première de l'exercice de la vie politique. Or, il me semble que l'égalité actuelle, telle qu'elle est pensée et conçue par le ministère de l'Éducation nationale à la rue de Grenelle, par un certain nombre de discours qui sous-tendent les décisions qui sont prises par ce ministère, est une égalité de l'indistinction. Parmi tous les domaines de réflexion et les choix que sont en train de faire notre ministère, j'ai choisi de travailler devant vous et d'illustrer mon propos devant vous avec les fameux outils pour l'égalité garçon-fille à l'école, qui sont, vous le savez sans doute, comme je le disais, la reprise, de manière atténuée et modérée, des ABCD de l'égalité. Alors, quel est le statut exact des propositions qui sont faites? À proprement parler, pour le moment, il ne s'agit pas de programme. Ce sont des propositions qui sont faites et qui sont consultables sur le site des connaissances et de la transmission des savoirs de l'éducation nationale qui s'appelle le site CANOPE, C-A-N-O-P-E accent aigu. Et donc tout ce que je vais vous dire maintenant, eh bien, est consultable et est visible sur le site en question. Premier point, je dirais, en ces prémices même, le projet qui est porté par Najat Vallaud-Belkacem et par d'autres propose une égalité qui suppose l'abolition des distinctions et des différences. Et on entre au cœur de ce projet, à l'origine de ce projet, dans ce que j'appellerais le sophisme égalitaire. Alors vous savez, un sophisme, c'est un raisonnement qui a l'apparence de la vérité, l'apparence de la logique, mais qui ne l'est pas forcément. Ainsi, le projet trouve la justification qui suit. La différenciation peut être source d'inégalité. Or, poursuit le concepteur du projet, d'une manière générale, elle est discriminante. Donc, il faut neutraliser les stéréotypes qui émanent des différenciations qui sont jugées discriminantes. Pour supprimer les inégalités, en somme, supprimons les différences. Pour supprimer les différences, supprimons les identités. La question que pose alors ce projet est la question non pas du pourquoi, mais maintenant du comment. Comment faire? Comment on va faire pour mettre en œuvre une pédagogie de l'indistinction? La chose est intéressante. Les promoteurs du projet, pour répondre à cette question du comment faire, du moyen, vont précisément viser la culture. Et précisément viser la culture dans ce qu'elle a, à leurs yeux, de discriminant, à mes yeux, de capacité à distinguer la réalité et le réel. Et précisément la culture qui sera transmise aux enfants. Vous m'avez compris, la cible intellectuelle des outils pour l'égalité filles-garçons à l'école, ça n'est pas la grande philosophie, non, c'est très exactement les contes qui sont rapportés aux enfants. Pourquoi? Parce que précisément, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est dans ces contes qu'on fait peut-être justement l'expérience de la distinction. Et ainsi, les contes sont présentés de manière négative dans ce projet et font l'objet d'une sorte de pédagogie du soupçon, exercée à l'égard de la culture et de la culture classique. La femme, me dit-on, dans les contes, véhicule une image de femme soumise, souvent humiliée, incarnation du mal. Parti pris, parfaitement discutable, nous pourrons en débattre si vous le voulez. La distinction ici est un arbitraire oppressant. C'est une variable qui est discriminante et qu'il convient d'abolir. Mieux encore, dans le comment faire, il y a une rubrique tout à fait intéressante dans ce projet qui s'appelle « Agir dans la classe ». Comment agir dans la classe pour induire un comportement qui soit égal et non discriminant. La pédagogie des promoteurs de ce programme ou de ces propositions suppose une didactique de la surveillance et du contrôle. Ainsi, il est proposé, et je cite, « à partir de photographies d'occupation des ateliers, je suppose qu'il s'agit d'une classe de primaire, de comptabiliser les passages dans chaque atelier, au bout d'une semaine, d'entamer un débat sur les occupations et sur les tendances qui se dessinent. On photographie les enfants et on leur demande, on les somme, de se justifier quant au fait que le petit Kevin, si Kevin, a passé trop de temps dans un atelier plus marqué garçon que dans des ateliers plus marqués filles. Nous sommes dans l'observation, nous sommes dans la quantification et d'une certaine manière, nous sommes dans le contrôle. Il ne s'agit plus là véritablement, je trouve, d'éducation, d'initiation. Il s'agit d'une véritable rééducation par la régulation qui voudrait promouvoir une égalité purement quantitative et nombrable, au détriment de quoi donc? Au détriment qualitatif et spontané du comportement de l'enfant. Car après tout, le petit Kevin a peut-être passé un certain temps dans un atelier plus fille, mais peut-être a-t-il éprouvé beaucoup plus de joie que dans l'autre atelier, vous voyez? Nous sommes donc ici dans un égalitarisme purement numérique qui induit une surveillance, un contrôle. Et cette égalité imposée est une égalité qui s'impose au détriment d'une liberté, au détriment d'une spontanéité qui est propre à l'enfant et qui est propre à l'individu. Alors la question que je me pose moi-même lorsque je suis face à ces propositions-là, lorsque je suis face à cette tendance-là, lorsque je suis face à cet égalitarisme-là, est la suivante. Quelle égalité puis-je enseigner aux enfants dont j'ai la responsabilité? Il a été dit que j'enseigne en classe préparatoire, mais j'enseigne également en collège, ici même. Qu'est-ce que je peux proposer à mes élèves et que pouvons-nous proposer à nos enfants dans ce domaine? Ma réponse va tenir en une phrase et je développerai rapidement. Ce que nous avons à proposer aux enfants est ceci, une équité face au savoir pour un apprentissage de la distinction. Oui, il faut réaffirmer plus que jamais l'égalité d'éducation, comme le voulait Jules Ferry, le père fondateur. Il faut remplacer d'une certaine manière l'égalité comme savoir à transmettre par une égalité de chacun face au savoir. Donnons à chacun sa chance. Nous devons passer de cette culture de l'égalité, que souhaite notre ministre, à l'égalité devant la culture. Et nous devons courageusement, scrupuleusement, tenter d'apporter à chacun, dans un souci de juste rétribution, ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et c'est tout le travail, c'est tout l'art, c'est toute la beauté du métier. Comment faire grandir chacun dans un groupe, dans un ensemble? Et je crois, et c'est ma deuxième proposition, je crois que plus que jamais, nous avons à initier les enfants que nous avons, les enfants dans nos familles, les enfants que nous avons en face de nous dans nos classes, à la culture comme l'espace d'un lieu de distinction. Et plus que jamais, nous avons à montrer, entre autres, en guise de réplique, mais aussi de redécouverte peut-être, à montrer à quel point les contes, de Perrault, en l'occurrence, qui sont nos contes à nous, sont précisément des histoires qui nous apprennent à différencier les choses, à montrer la complexité, la fragilité des séparations, à montrer le bienfait d'une vue claire et distincte dans telle ou telle situation. Parmi tous les contes que je voudrais développer rapidement devant vous, j'ai choisi une histoire fort connue d'une petite fille de village. Il était une fois. Hein ? Le conte, c'est aussi cette voix très étrangère qui me transporte ailleurs pour me redécouvrir moi-même. Très étrangère et très familière. Il était une fois donc une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère, en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme, je suppose que c'est la grand-mère, lui fit faire un petit chapeau rouge qui lui seyait si bien que partout où elle allait, on l'appelait le petit chaperon rouge. En trois phrases, avec une économie de moyens extraordinaire, Charles Perrault nous montre précisément les dangers de l'indistinction. En trois phrases, Charles Perrault nous fait entrer dans un lieu, notez-le bien, purement féminin, où manque précisément un père, où manque l'autre, l'autrui. Et dans ce lieu où il n'y a plus de limite, ici la limite masculine, eh bien se dessine un espace des confusions. D'abord donc, un espace des confusions générationnelles. La mère et la grand-mère aiment de manière désordonnée et non tempérée l'enfant. Un espace aussi, c'est très intéressant, des confusions linguistiques. Cet enfant n'est pas nommé, il n'est nommé que par l'objet qu'il reçoit. Alors ça s'appelle une antonomase, s'il vous plaît. Et n'étant pas nommé, il perd son identité. Il ne sait pas qui il est. Ne sachant pas qui il est, comment peut-il connaître le danger que représente autrui, vous avez compris, le loup, lorsqu'on se promène dans un bois. Tiens, tiens, le loup est appelé compère le loup, comme si c'était un père. Il va jouer le rôle du père, il va usurper la place paternelle, il va se porter au secours de la grand-mère, vous savez ce qu'il en advient, il va piéger le petit enfant, vous savez ce qu'il en advient, de manière magistrale ici, Perrault nous montre que un univers qui n'est pas distinct est un univers dangereux et d'abord pour les enfants, car il permet toutes les substitutions, car il permet toutes les tyrannies, car il permet d'une certaine manière toutes les usurpations et toutes les dévorations. Ce que donc nous avons à apprendre ensemble, et la tâche est belle, elle est noble, elle est plus que jamais d'actualité, nos enfants en sont capables, à tout jamais, c'est certain, ce que nous avons à apprendre ensemble par la médiation de la culture, ce sont les différences que nous vivons, ce sont les différences de la nature. Nous avons à donner à chacun, me semble-t-il, les moyens de se savoir différent, les moyens de se comprendre différent et de recevoir l'autre dans sa différence. Non pas pour que chacun se sente seul ou semblable, mais pour que chacun se sente véritablement lui-même et à sa place, en fonction de ce qu'il a envie de devenir. Pour conclure, je finirai par une petite lecture que j'adresserai en priorité à mes chers collègues qui sont ici. La question que nous autres, enseignants, me semble-t-il, mais pourquoi pas vous aussi les parents, nous avons à nous poser face à cette espèce de rouleau compresseur, de nivellement, d'injonctions, de slogans, d'idées toutes faites, de déclarations qui sont faites, qui sont suivies d'aucun effet. Vous allez sur le site de l'Éducation nationale, vous avez encore des projets qui datent de M. Hamon, n'est-ce pas ? Nous ne savons pas si ces projets vont être mis en acte ou pas. Bien, dans cette espèce de tourbillon extrêmement vain et finalement sidérant, ce que nous avons à faire, nous autres, chers collègues, chers professeurs et puis chers parents aussi, c'est nous cultiver d'abord. Nous avons à résister aux pressions de la vanité du politique par la vérité de notre culture. Nous avons à entrer dans la finesse de la culture et par là même, sans doute, à connaître et à comprendre la finesse de la vie et la fragilité de toutes ces distinctions qui sont mises en question actuellement, en même temps qu'eux, à découvrir leur bien fondé. Nous avons à nous libérer de toutes ces servitudes pour entrer dans la liberté de la culture. Et donc je voudrais finir par la lecture d'un petit texte qu'un certain Charles Péguy adresse à des instituteurs qui, eux aussi, en cette troisième république des années 1910-1920, aussi sont un peu menacés dans leur liberté, car à eux aussi on leur demande beaucoup de choses. Et dans ce texte assez connu, que je m'en vais vous lire, vous allez voir que Charles Péguy ne conseille qu'une chose à l'instituteur, c'est le retour à la culture. « Nous devons avoir le courage, nous dit Péguy, de le répéter aux instituteurs. Il est indispensable qu'ils se cultivent eux-mêmes. » Il ne s'agit pas d'enseigner à tort et à travers. Il faut savoir ce que l'on enseigne. C'est-à-dire qu'il faut avoir commencé par s'enseigner soi-même. Les hommes les plus éminents ne cessent pas de se cultiver. Ou plutôt, les hommes les plus éminents sont ceux qui n'ont pas cessé, qui ne cessent pas de se cultiver, de travailler. On n'a rien sans peine, et la vie est un perpétuel travail. Afin de s'assurer la clientèle des instituteurs, on leur a trop laissé croire que l'enseignement se conférait. L'enseignement ne se confère pas, il se travaille et se communique. On les a inondés de catéchismes républicains, de bréviaires laïques, de formulaires. C'était avantageux pour les auteurs de ces volumes et pour les maisons d'édition. Mais ce n'est pas en récitant des bréviaires qu'un homme se forme. C'est en lisant, en regardant, en écoutant. Qu'on lise Rabelais ou Calvin, Molière ou Montaigne, Racine ou Descartes, Pascal ou Corneille, Rousseau ou Voltaire, Vigny ou Lamartine, c'est en lisant qu'un homme se forme, et non pas en récitant des manuels, et c'est aussi, ajoute-t-il, en travaillant modestement. Je vous remercie.